C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Berlin Noël et j'aime bien les yens.
Come on, guy. We'll be sweet with me.
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Voilà ce que Christophe Honoré nous a écrit à son propos. Filmer Denis, c'est comme une balade en montagne avec un guide d'exception. Vous êtes prêt à le suivre partout où il ira. Denis est un acteur qu'on dirige comme on se lance dans une phrase. Vous pouvez lui ajouter toutes les propositions relatives, subordonnées, conjonctives qui vous passent par la tête. Cela n'alourdira jamais son jeu. Il reste élégant et léger dans le plan. Il ne perd jamais le sens. Denis, c'est le Grévisse de l'interprétation. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Voilà, vous êtes capable, on le sait, de faire le grand écart entre des films comme Neuilly sa mère ou une pièce comme Oedipe tyran de Sophocle. Bonjour Denis Podalydès.
Bonjour.
Heureux nous le sommes de vous capter en ce début janvier, d'habitude tellement occupé. On ne va pas dire merci au virus, mais presque. Vous devriez être à l'affiche des deux Alfred réalisés par Bruno Podalydès. Alors, en attendant sa sortie, nous évoquerons votre métier d'acteur. Merci d'être là ce matin. Et nous parlerons aussi de livres et de DVD pour combler ce grand vide des salles de cinéma fermées depuis maintenant plus de 2 mois. C'est parti.
Je veux un dîner royalement splendide, quelques bacchanales dignes du siècle où tout s'est dit-on perfectionné. Que mes convives soient jeunes, spirituels et sans préjugés, joyeux jusqu'à la folie. Que les vins se succèdent, toujours plus incisifs, plus pétillants, et soient de force à nous enivrer pour 3 jours. Que cette nuit soit parée de femmes ardentes. Je veux que la débauche en délire et rugissant nous emporte dans son char à 4 chevaux, par-delà les bornes du monde, pour nous verser sur des plages inconnues. Que les âmes montent dans les cieux ou se plongent dans la boue, je ne sais si alors elles s'élèvent ou s'abaissent, peu importe. Aussi souhaitais-je, et des prix apaisantiques à préboire, et des chants à réveiller les morts, et de triples baisers, des baisers sans fin dont la clameur passe sur Versailles comme un craquement d'incendie.
Balzac, la peau de chagrin, lue dans les minuscules toilettes à la fin du film Versailles rive gauche, réalisé par votre frère Bruno Podalydès, qui dit « Tant qu'on avait installé la caméra, Denis ne pouvait pas sortir séquestré dans les toilettes. » Bref, un défi technique, comique, littéraire, cinématographique est le début de votre parcours au cinéma, Denis Podalydès, 1992, depuis cette date, près de 80 films, dont 10 avec votre frère. En fait, vous êtes filmé, vous, depuis l'enfance, par votre père.
Oui, oui. Super 8. Tous les Noëls, d'ailleurs. Oui. Même mis en scène. Très éclairé. Pour moi, d'ailleurs, le cinéma... c'était une sorte d'orage d'éclairage, de lumière fracassante, blanche, éblouissante et fantastique. Et je garde d'ailleurs un souvenir, parfois ça nous embêtait de faire de la mise en scène alors qu'on voyait les cadeaux là sous le sapin, mais en même temps ça a créé une sorte d'éblouissement à la fois sur cette période de Noël qu'on vivait comme un enchantement et sur le cinéma qui est entré très 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 jeune dans notre vie, grâce à notre père.
Votre père hurlait quand l'autonomie de la caméra était trop courte, c'est vrai.
Ah oui, oui, ça je pense que c'est Bruno qui se souvient mieux. J'étais vraiment petit et mes souvenirs sont flous un peu de ces instants-là parce que ça a commencé très jeune. Il a filmé, mais il y a un très très beau film qu'il a fait. Je crois que c'est même pas en Super 8, c'est il serait là, il le dirait lui-même. Il a filmé, mon frère avait 2 ans, donc je crois que j'étais pas encore né, puisque j'ai 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, ouais, 2 ans d'écart. Et qui est très très beau, c'est mon frère Bruno en robe de chambre sur un fond gris qui découvre ses jouets. On a l'impression que c'est filmé par Dreyer. C'est très très beau.
En fait, votre vocation d'acteur, elle est née dans la cellule familiale.
Oui, elle est née dans sous le regard de nos parents qui donnait une très grande importance à ça, oui, à notre relation et à, au fait que cette relation soit créatrice, puisque très tôt, on a élaboré des tout petits spectacles, on a rapproché nos deux lits d'enfants, on partageait une grande chambre, et on en a fait une scène. Sur cette scène, on est monté, on a commencé à dire un peu n'importe quoi, et puis à jouer à la piste aux étoiles. Il y en avait un qui faisait le fauve. On a vu que nos parents regardaient ça avec tendresse, mais c'était pas quand même, ça les captivait pas tant que ça. Et nos petits jonglages étaient très approximatifs, et donc on a commencé à feuilleter des livres et pris des blagues, notamment dans les pif-poches, qu'on a mis en scène, et puis voilà. D'année en année, ça s'est élaboré.
C'est être regardé dès le départ.
Oui.
C'est une position particulière.
Et à part notamment notre père qui nous aidait ensuite à construire des, il a construit un guignol dans notre chambre qui était magnifique, dans lequel on a, avec des coulisses, avec des cintres, enfin vraiment, c'était notre producteur en fait.
Vous poursuivez ce travail avec Bruno.
Mais Bruno me l'a dit sur le plateau des deux Alfred.
Des deux Alfred, bien sûr. On en reparlera un peu plus tard dans l'émission de ce film merveilleux dont on attend la sortie. Tout jeune, il y a un homme de théâtre qui vous fascinait. C'était Jean-Louis Barrault. Vous lui avez même écrit, il vous a jamais répondu. Ouais. Comédien, mime, metteur en scène, directeur de théâtre, on va l'entendre parler du jeu.
Alors, pourquoi est-ce qu'on joue? Pourquoi est-ce qu'un chien joue avec une balle? Eh bien, je crois que quand un chien joue avec une balle, il ne fait pas autre chose que ce que font les militaires en temps de paix. Il fait des manœuvres. Il s'entraîne à vivre. Il s'entraîne à répondre aux dangers. Eh bien, le jeu que les hommes ont inventé, qui s'appelle le jeu dramatique, est également un entraînement à la vie. Et c'est pour cela que dans le jeu dramatique, on étale sur la scène tous les dangers, toutes les démesures, toutes les monstruosités, toutes les passions, tout ce qui a tendance à déséquilibrer la vie, dans le sens biologique du mot, et à nous précipiter dans les erreurs, c'est-à-dire dans la mort. Donc, c'est un entraînement à la vie, il y a un nettoyage et un fortifiant.
C'est drôle, Denis Padaliès, parce que vous parlez souvent, oui, vous parlez souvent de vivant et de mort, d'ailleurs, hein, c'est intéressant.
Ah,
des choses vivantes.
Oui.
Et Barrault, pourquoi il était si important pour vous, jeune? Pourquoi il vous impressionnait?
Alors, il y a la découverte des Enfants du Paradis, assez jeune. Période de Noël aussi, d'ailleurs. Ça passait tous les ans. Donc, fascination pour le personnage de Baptiste dans le film. Oui. Et puis, la découverte d'une pièce de Paul Claudel, Le soulier de satin, que m'a fait découvrir ma grand-mère, et qui m'a parlé de celui qui avait créé la pièce en 42 sous l'occupation, et qui était Jean-Louis Barrault. Donc, il y a eu une sorte de précipité entre le héros
Les Enfants du Paradis.
Les Enfants du Paradis et Claudel. Et je suis allé très peu de temps après voir Le soulier de satin, emmené par ma grand-mère. Ça a été un choc, un bouleversement. Et j'ai découvert alors aussi Jean-Louis Barrault, metteur en scène, son histoire dans le théâtre, qui avait fait partie de l'avant-garde dans les années 30, qui avait créé deux spectacles adoubés par Antonin Artaud, qui me fascinait adolescent.
Qui en 68 avait accueilli les étudiants.
Voilà, et donc toute l'histoire de Barrault, et donc je suis allé régulièrement au théâtre. C'était d'abord le théâtre d'Orsay, puis le théâtre du Rond-Point, d'ailleurs, il a fini. Et donc j'allais l'espionner les dimanches, j'allais pas forcément voir les spectacles. Je suis allé voir tout ce qui se jouait à ce moment-là chez Barrault. C'est devenu une sorte de figure tutélaire, de dieu, quoi.
Avant de se rendre compte de tout cela, le métier de l'acteur, il faut bien l'apprendre après des études de lettres très supérieures. Le cours Florent, à vos côtés, notamment Anne Brochet. Et vous dites que c'est un peu grâce à elle que vous avez obtenu le conservatoire. Bon, on va l'écouter, on va vous la faire entendre dans Cyrano de Bergerac.
Peut-être a-t-il douté de ce que j'avais dit et pourtant c'était vrai.
Vous n'avez pas menti?
Non, je l'aimerais même.
Le mot vous gêne devant moi?
Non.
Il ne me fera pas de peine. Même s'il était laid?
Même s'il était laid.
Même défiguré?
Même défiguré.
Et s'il était affreux, ridicule, grotesque, vous l'aimeriez encore?
Et davantage, presque.
Mon Dieu. C'est vrai, peut-être. Mais le bonheur est là.
Mais quoi, que dites-vous?
Écoutez, voilà. Roxane, je voudrais...
Christian!
Toute jeune, Anne Brochet dans un rôle immense face à un immense acteur, Gérard Depardieu. Qu'est-ce qu'elle avait de plus que les autres, Anne Brochet, au cours, Florent?
Elle était absolument, littéralement éblouissante. C'est-à-dire, je me souviens, moi, d'avoir joué à côté d'elle au conservatoire, une scène de Marivaux, et j'avais le sentiment d'être dans l'ombre. Alors, je me rapprochais d'elle, parce que je me disais, il y a un projecteur qui manque. Et je sentais qu'elle attirait la lumière, comme ça. Elle avait une espèce de grâce absolue, d'intelligence. On l'entend, d'ailleurs, il y a une intelligence du vers, une intelligence du texte, et dans une extrême jeunesse. Elle avait, quand on s'est rencontré au cours Florent, elle avait 16 ans, Anne. Oui. Vraiment, elle arrivait d'Amiens, elle n'avait absolument rien fait. Et dès sa première apparition sur scène, c'était une sorte d'actrice confirmée. J'ai eu le sentiment là avec Valérie Dréville quelques années après de voir une actrice qui semblait avoir... Elle était beaucoup plus jeune que moi et j'avais l'impression qu'elle avait 20 ans d'expérience. Une sorte de grâce et de savoir-faire en même temps.
Face à elle, donc, il y a Gérard Depardieu. Vous dites, sur Gérard Depardieu et Devers, ils ont inventé une autre façon d'être naturel. Ils ont balayé tout le monde. C'était des acteurs physiques instinctifs.
Oui, et les grands acteurs, en fait, ils font une révolution souvent dans le rapport à la vérité, le rapport à la sincérité. Ceux qui étaient sincères et naturels 2-3 ans avant, d'un seul coup, paraissent faux.
Ça n'est presque injuste,
parce qu'il y a des gens qui basculent comme ça. Vous avez quantité de jeunes premiers qui ont un peu basculé après la venue, le surgissement sur scène, sur les scènes et sur les écrans de Depardieu et Devers. Et puis le jeu cinématographique a aussi complètement, ringardisé, c'est un peu méchant, mais un jeu théâtral qui semblait appartenir à un autre temps.
C'est pas le rêve pour vous, justement, de faire des si beaux textes au cinéma, comme c'est le cas pour Cyrano, justement, du cinéma et un très grand texte?
Si, j'ai toujours rêvé de ça. Et pour moi, ce Cyrano de Rappeneau avait une très grande force cinématographique et poétique, où le vers s'entendait en tant que vers, n'était pas nié dans une prose quelquefois, ou un ton prosaïque qui, par peur de la poésie, essaie de banaliser le vers. Ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. Il y a parfois, on essaie de monter Racine ou des pièces de Corneille, des pièces en vers, en essayant de lisser au maximum pour faire disparaître le vers, mais en fait, le vers résiste, et ça donne un ton naturaliste encore plus faux.
Naturel et physique, vous l'étiez un peu moins à vos débuts.
Peu de le dire.
Ouais. C'est peu de le dire. Michel Bouquet, votre professeur, vous en avez fait la remarque.
Oui.
Tout ce que tu as là, en vous tapotant le crâne, il faut maintenant que ça descende dans la chair.
Ouais.
C'est dur à entendre ça, non?
Ça m'a été dit, c'est comme une sorte d'énigme, de viatique, de quelque chose qui m'accompagnerait toute ma vie, parce que c'est vraiment, d'avoir Michel Bouquet à 3 centimètres, c'était pas rien, c'était un visage qui était passionnant, effrayant, fascinant. Et Michel Bouquet, on l'avait pas à tous les cours, parce qu'il travaillait beaucoup en dehors, donc il y avait souvent... il était souvent remplacé.
Oui.
Et donc, quand il venait, c'était Dieu qui entrait en personne. Et donc, ce qu'il vous disait avait une puissance métaphysique très grande.
Mais c'est comme Jouvet, c'est les choses qu'on comprend pas forcément.
Enfin, ah non, mais moi j'ai mis 20 ans à comprendre ça, je comprenais, j'ai pas compris.
C'est le mystère.
Mais c'est vrai, c'est vrai. Un acteur doit, en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut
incarner.
Incarner de la tête aux pieds. Et donc, un texte doit vous traverser, ou une situation, un personnage, un univers, un monde. Ça doit prendre possession de votre corps. Et moi, je m'appuyais sur ce qu'on me disait être mes points forts, c'était la diction. Et comme je tremblais vraiment physiquement, donc je sais que j'ai passé le conservatoire avec un énorme manteau qui me descendait jusqu'aux pieds de façon à cacher le tremblotement de mes genoux. Et je me suis complètement reposé sur la diction. Voilà. Mais évidemment, donc je n'existais qu'à moitié. Ouais.
Pourtant, vous êtes très physique chez Bruno Podalydès, par exemple. C'est presque du mime aussi, parfois.
C'est arrivé après, oui.
Il dit dans Versailles gauche, il y a un plan génial, il y a un plan... C'est pas un plan arrêté, c'est un acteur arrêté. Vous vous arrêtez, vous vous figez, et les gens dansent derrière vous. Il y a un vrai travail de presque de mime aussi.
Mais j'ai adoré ça, c'est sans doute Barreau aussi.
Rejoint Barreau, oui.
Beaucoup.
Voilà, ouais.
Et Étienne Decroux, j'avais lu quantité de choses sur le mime, même si j'étais pas un fanatique, par exemple, de Marcel Marceau. ça m'ennuyait un tout petit peu avec le immense respect que je peux avoir, parce qu'il a inventé des choses incroyables. Mmh.
Comme disait Carmé, plus fort. Dans un spectacle, il avait crié
un Marceau plus fort.
Ouais.
Et non, physique, c'est venu après. Je pense que j'étais tétanisé d'abord par les grands maîtres, j'étais tétanisé par les grands textes, j'étais tétanisé par le conservatoire, je suis quelqu'un d'assez timide, donc il m'a fallu du temps pour laisser aussi s'exprimer ce corps que j'avais, que j'avais tendance un peu à châtier, à dénigrer, en fait, souvent, quand les jeunes acteurs, je l'ai vu après quand j'ai été prof, vous avez ceux qui sont empêchés par eux-mêmes, qui ont un certain talent, qui peuvent avoir des facilités, mais eux-mêmes s'infligent des peines. C'est-à-dire, on sent qu'ils ne s'aiment pas, on sent qu'ils se surveillent, on sent qu'ils se censurent, et ces autocensures, c'est les choses les plus fortes. Et alors que vous avez d'autres natures, on appelle déjà des natures, souvent des acteurs qui n'ont pas d'autocensure, qui s'expriment merveilleusement.
Qui ont
cette forme de nature. Moi, j'avais pas ça. J'avais une forme d'autocensure. Je me châtiais un peu.
Vous vous aimez?
Oui, ça va mieux.
Le cinéma, je le disais, près de 80 films dans des univers extrêmement contrastés. Tiens, on a choisi un côté de ce contraste, c'est Neuilly, sa mère, face à Valérie Lemercier, votre ex-femme dans le film.
Ah non, surtout pas, non. Bon week-end, papa.
Bon week-end.
Allez, bon week-end.
Non, mais je rêve. Non, mais maintenant, mon fils sort sans cravate.
Oui, alors là, ta gueule, Brigitte, parce que la dernière fois, t'avais oublié sa ventoline. Sur un truc comme ça, je te fais sauter tes week-ends.
Ok. Et elle est habillée comme une pouffe et personne lui dit rien.
Mais la pouffe, elle te dit merde, pauvre chure.
Eh ben voilà, c'est reparti pour les insultes. Non, mais t'as vu dans quel état tu me rends mes enfants? Je vais faire constater leur vulgarité par un huissier, c'est toi qui vas perdre ton droit de garde. Enculé, va.
C'est ça. Sale pute.
Pauvre con.
Mal baisé.
Non, ouais, par toi, certainement,
rien
sale merde.
Mais rien à foutre, j'entends pas, je t'entends
dégage,
pas.
Dégage, je veux plus te voir, dégage.
Mais oui, mais t'as raison.
Allez, va chez ta connasse.
C'est comment de jouer face à Lemercier? Elle est tellement étonnante.
Ouais, c'est génial. C'était un moment extraordinaire, cette scène-là. Je me rappelle parce qu'il y a eu débordement dans l'improvisation.
Ouais.
Et on s'est répondu comme un échange de tennis, là, de smash, de volley. On se répliquait de volley. C'est des partenaires géniaux aussi.
Il paraît que pendant
vous élèvent,
oui,
en fait.
Pendant une prise, elle peut dire non, on arrête, c'est mauvais, t'es mauvais, là, on est mauvais.
Ah, ça, c'est quand elle dirige elle-même. Mais là, ce film, c'est pas elle, la réalisatrice.
Non.
Elle est incroyable, Valérie, parce qu'elle est dans ses propres films, effectivement, elle joue, elle dirige en même temps, donc c'est un autre sport, mais c'est tout aussi passionnant, parce qu'un acteur doit être, je trouve c'est intéressant d'être prêt à n'importe quelle situation.
Et ce film vous a ouvert un nouveau public.
Exactement, c'est mon plus grand, je crois, succès populaire. Et je le dois à Jamel Ben Salah,
oui,
qui a écrit Neuilly, sa mère, sa mère,
oui.
Le deuxième aussi.
Vous pouvez le redire, ça?
Neuilly, sa mère, sa mère.
Ouais.
C'est le deuxième, parce que c'est Neuilly, sa mère, deux, ça faisait un peu
bizarre. Bah oui, c'est vrai. Ouais.
Et donc je lui dois ça et j'ai une immense gratitude. Pour ça.
Alors, une autre actrice inventive et fantasque, qui est aussi réalisatrice, c'est Noémie Lvovsky. Dans ce film, Camille redouble. Camille, renvoyée dans son passé quand elle avait 16 ans, elle retrouve parents, amis, et ce professeur de physique, et son drôle de nom, Alphonse Dacosta.
Camille Vaillant, vous venez toujours du futur?
Oui.
Au futur. Alors, il est comment, ce futur?
Le président des États-Unis. Et noir.
Oups.
Avec vous, je sais pas ce qui va se passer. Ça, je l'ai jamais vécu. Peux se dire tu? Au lycée, on se dit vous, monsieur Dacosta.
Je préférerais pas.
J'ai cru que je pouvais changer le passé. J'ai cru que je pouvais sauver ma mère. Maintenant,
votre mère n'a rien. Il va rien lui arriver.
Elle va mourir dans 13 jours.
Non, il n'arrivera rien ce jour-là. Si vous voulez, ce soir-là, je vous invite à dîner. Je vous emmène.
Puis j'ai peur d'être prisonnière ici pour toujours. J'ai peur que ma fille n'existe plus. Si je tombe pas enceinte maintenant, ma fille n'existera plus.
Mais je suis fou de vous écouter. Moi, je vous propose un pacte. Si à la fin du mois, vous venez toujours du futur, je vous oblige à voir un médecin.
À la fin du mois, vous me croirez.
Alors là, c'est moi qui irai voir un médecin.
Et en attendant?
En attendant.
Vous voulez bien que je reste un peu comme ça?
Vous êtes la fille la plus étrange que j'ai jamais vue.
Il n'y a qu'avec vous que je me sens bien.
Moi, je me sens perdu. Mais c'est infiniment agréable.
Camille Redoum, Nemilovski, c'est beau ce mélange de, ouais, de comédie en même temps.
C'est
de...
beau, c'est une poésie folle. Oui. Je répète en ce moment avec Noémie, on prépare un film qui sera une comédie musicale, d'après la pièce de théâtre d'Eduardo Di Filippo, La Grande Magie, avec Noémie, moi, Roche Dizem et Judith Chemla qui jouera ma femme. Ce sera une comédie musicale dont la musique est écrite par le groupe Feu Chatterton, qui ont fait des choses mais magnifiques.
Et absolument vous chantez.
Et je chante. Quel boulot alors là, parce que moi, franchement, là, c'est pas gagné d'avance. J'ai dit 100 fois à Noémie, mais tu sais, si je suis doublé, peut-être, après tout, demi l'a fait, ça pourra marcher. Non.
C'est quoi le problème?
Tu travailles. Ben, j'ai pas de facilité naturelle, mais ça me demande beaucoup de travail. Oui. Avec, mais ils sont géniaux, notamment Sébastien et j'oublie le prénom de l'autre musicien qui me font beaucoup travailler, mais ils s'acharnent et ils sont encourageants, patients, délicats. Et donc j'y arrive en fait.
Parce que Benoît Poulevard va plus loin et lui il dit que c'est plus difficile que de se mettre à nu physiquement,
de chanter. Oui. C'est vrai.
On se révèle beaucoup, il dit.
Énormément, énormément. Ouais. Et d'ailleurs, on sent quand on n'y est pas encore. On a beau chanter, alors ma famille, mes enfants, ils n'en peuvent plus. Ils connaissent les chansons mieux que moi, ils les chantent mieux que moi.
Mais c'est une histoire de vérité, ça. C'est une histoire de vérité avec soi-même, c'est quoi?
C'est un accord, effectivement. Un certain accord avec soi-même. Je ne saurais pas mieux dire.
Ou de livrer des choses.
Vous livrer, et en même temps, ça ne doit pas être la débauche. Et puis, il faut trouver ce foutu tempo, c'est-à-dire qu'il y a un, deux, trois, quatre, un, deux, ta. Et alors là, moi, je me fais avoir une fois sur deux. Et c'est très, très technique en même temps, très technique. Et dans la bombe, tous les arts sont un peu comme ça. C'est un mélange de super maîtrise et de super abandon. Vous devez abandonner tout ce que vous savez et en même temps, il faut savoir.
On peut se permettre d'être mauvais, Denis Podalydès. J'aime beaucoup cette histoire que vous racontez sur Piccoli, que vous avez vu répéter. Racontez-la nous.
Ben, un jour, je ne sais plus exactement pourquoi, j'avais rendez-vous dans les combles de l'Odéon. Je devais rencontrer un metteur en scène, je crois. Et j'ai passé une tête dans la salle. Et sur scène, tout seul, il y avait Michel Piccoli qui semblait errer à gauche et à droite, perdu dans un immense monologue, et puis je le voyais, je l'écoutais, il annonnait un peu, et ça m'a fasciné complètement. Et puis à bout d'un moment, il avait dit, bon, c'est pas bon là, hein. Puis on entend la voix de Luc Bondy qui dit, oui, effectivement, c'est pas bon. Et grand silence, et Piccoli qui dit, bon, il faut s'en sortir quand même. Reprends Michel. Il reprenait. Et je trouvais Piccoli un peu ennuyeux. Et ça m'a fasciné. Je me suis dit, c'est génial. Il répète, il travaille, il est pas très bon, il est ennuyeux, il n'y est pas encore, tout Michel Piccoli qu'il soit. Et ça m'a fasciné. Après, j'ai vu, c'est John Gabriel Borkman, une pièce très dure d'Ibsen, dans un des monologues les plus durs de la pièce. Et après, en scène, Piccoli fascinant. Mais moi, je l'avais vu ennuyeux et mauvais. Et ça m'a... Vous pouvez pas savoir ce que ça m'a fait du bien. De savoir qu'un acteur, il progresse, il est perfectible, il peut partir, il peut être mauvais. En répétition, on a le droit et on doit commencer. Pas forcément commencer, d'ailleurs, parce que souvent, quand on commence la répétition, c'est très bon. C'est après que ça s'effondre. Il y a quelque chose qui, de l'intérieur des corps, qui s'effondre.
Dans notre générique, d'ailleurs, il dit, j'aime bien, Piccoli, j'aime bien frôler les catastrophes.
Mais il a raison. Il a raison. Et là, en fait, il se mettait à nu aussi. Parce qu'il y avait une trentaine de collaborateurs dans la salle. Bondy était un peu désespéré, parce que visiblement, moi, c'était pas le début de la panade. Quand je suis entré dans la salle, ils étaient dans le trou. Et donc, il y a un moment, le metteur en scène lui-même ne peut plus rien. Il a dit un certain nombre de choses, l'acteur aussi, et il faut passer par le néant. Moi, j'ai des souvenirs personnels en tant qu'acteur, en tant que metteur en scène, de frôler aussi, ou même pas frôler, vraiment d'être encalminé dans le néant, dans le rien. Et il faut traverser. Et souvent, après ces moments-là, il y a quelque chose qui finit par se passer, que personne n'a prévu, personne ne l'a décidé, et qui fait tout renaître.
Il y a un cinéaste qui vous a fait changer un peu de registre, c'est Christophe Honoré. D'ailleurs, on le citait au début, il nous a envoyé ce message sur vous.
D'ailleurs, je le remercierai parce que c'est
Profondément. Plaire, aimer et courir vite, une histoire d'amour entre Jacques, un écrivain parisien, et Arthur, un étudiant à Rennes. Un premier et un dernier amour, Jacques malade du sida. Vous incarnez, vous, Mathieu, l'ami et le voisin de Jacques, un journaliste écrivain homosexuel. Un personnage, dit-il, mi-Serge Danet, mi-Jérôme Lindon. On écoute un extrait de ce film.
Eh, dis donc, tu l'as trouvé où, là, ton morceau? Parce que j'ai pas eu le temps de bien mater, mais il a l'air tout en muscle, hein. Tu t'emmerdes pas, toi, hein? Tu vois depuis longtemps?
Ça dépend de mes finances. J'ai une pute, Jacques.
Ah bon?
Bah, tu sais très bien que c'est une pute. Comment, moi, je pourrais me faire un mec comme lui? Je paye ses muscles, je suis un client. T'es content? T'as obtenu l'information que tu voulais?
Ah non, mais je savais pas, je te jure, j'ai cru que c'était ton petit danseur.
Non, non, il est pas danseur.
D'accord. Tu fais attention, hein?
Oui, fais attention, je fais attention, j'ai pas de conseils. Putain, j'ai pas de conseils à recevoir de toi là-dessus, il me semble. C'est pas vrai, ça, c'est toi qui vas me faire une leçon de prévention? Alors réserve ce genre de considération à ton petit pédé breton.
Eh, Mathieu, fallait pas m'ouvrir, hein. Moi, je pouvais pas savoir que tu baisais un dimanche soir.
Ouais, là-bas. Démarre. Et quoi que tu dises, là, ça va.
Et tu veux pas venir avec moi? T'as la tenue qu'il faut, en plus, on ira à la mer.
Oui, je me suis pas mis comme ça dans l'idée d'une baignade.
L'essence. Eh, n'oublie pas que je t'aime.
Caresse de chien donne des puces.
Fais-moi un petit câlin avant de partir.
Non, mais depuis quand on se fait des câlins?
Mais je sais pas, j'ai l'impression que t'as envie d'un câlin.
Non, mais t'es un malade, hein. Je t'assure, ça fait froid dans le dos la manière dont tu communiques en ce moment.
Oui, et puis des scènes avec Pierre Deladonchamp et Vincent Lacoste dans un lit. Rien ne vous effraie, vous, au cinéma? Ni au théâtre, d'ailleurs.
Je sais pas.
Je sais que...
Non, j'ai pas hésité. J'étais trop heureux de tourner avec Christophe et ça s'est passé tellement merveilleusement. Je dois dire, il a obtenu des choses de moi que je ne pensais pas livrer, pouvoir. Bref, non, c'est une petite anecdote. On a pris un café ensemble et il m'a dit, t'es pas la page 55, te dérange pas? Non, la page 55. Et j'ai été voir, et il y avait une petite séquence qui m'avait échappé. Il y avait écrit trio sexuel. Ah. Et là, je l'ai regardé. Il m'a dit, jusqu'où tu es capable d'aller?
Ben oui.
Et là, je lui ai, dans le trio, je lui ai dit, bah, pas très loin. J'ai bien peur de ne pas pouvoir aller très loin. Et il a tout à fait, il dit, d'accord, bah, très bien. Et dans le trio, je garde mon caleçon et oui, je me retire du lit, d'ailleurs, au moment opportun.
D'ailleurs, il a changé le scénario.
Mais
pour
ça allait
vous
très bien avec l'histoire. Il l'a pas, ça ah non, l'a pas gêné, ça allait très bien. Et par contre, Pierre et Vincent, eh ben, ils s'y mettent.
Hein. C'est important aussi de témoigner de ça, du sida, dans un film aussi, comme il le fait, hein, de témoigner oui, d'une époque.
Bah oui, en plus, moi, ça me touchait parce que moi, j'ai vécu vraiment cette époque-là. Oui. J'ai des amis du groupe de théâtre qui ont été malades. J'ai eu des morts dans ma classe parmi mes amis. Je me souviens d'un ami historien, enfin, qui est spécialiste d'histoire, et qui était entré à Normal Sup, et qui s'appelait Luc Marmonnier. À chaque fois que je repense aux années SIDH, j'ai son visage en tête. Nordine Zaimi aussi, un type qui était exceptionnel, que je revois danser. C'est drôle, j'ai un souvenir de lui en train de danser. À chaque fois que le mot sida vient, je pense à eux, notamment à ces deux-là, un autre qui s'appelle Alberto Velasco, que j'avais croisé au théâtre et j'ai compris qu'il allait mourir. Cette vie dans la, cette mort qui saisissait ces gens alors qu'ils étaient en plein de vie, enfin, voilà, l'injustice profonde, la douleur de ces années-là. Et donc, dans ce film-là, c'était, je repensais à mes propres morts, donc ça a été particulièrement, important, oui, cette expérience.
Denis Podalydès, vous avez beaucoup incarné de gens célèbres au cinéma, Attali, Auguste Lumière, Jean-Paul Sartre, André Malraux et Nicolas Sarkozy dans ce film La Conquête de Xavier Duringer, oui, 2011.
Tu sais pas quoi, je lui demande alors c'est qui le rassembleur, c'est qui la perle rare, et là tu sais ce qui me sort? Raffarin. Alors je dis, monsieur le président, ça me fait vraiment plaisir que vous me préfériez l'inconnu du Poitou. Oui, je dis ça. Non, tu as raison, oui. Je t'embrasse, monsieur. À plus tard, ouais.
Il vous fera payer jusqu'au bout d'avoir choisi Balladur. Il n'oublie rien.
Avec lui, on n'est toujours qu'un ennemi ou un esclave. Bon, bah, Rafa, rien à gagner, hein. Voilà, il a mieux joué que moi, c'est tout. Ça ne se reproduira plus.
Denis Podalydès, vous avez dit, Sarkozy, un personnage gratifiant à jouer, radical, violent, cruel.
Ah, j'ai dit ça.
Ouais.
Aujourd'hui, je dirais pas ça. Radical, violent, c'est pas un homme ni si radical ni si violent. Il pouvait avoir comme ça, dans la parole, une crudité, oui, une violence dans le destin qui s'était tracé. Non, je vous dis, quand je pense à des Trump, vous voyez, radicalité, violence, oui, oui. Là, on est servi.
Non, vous avez dit aussi, ni sympathique, ni antipathique, mais vivant.
Vivant, absolument. J'ai ce personnage-là. Mais, par exemple, ces phrases-là, ce dialogue, c'est, on dirait que ça a été écrit par Michel Audiard, mais non, c'est vrai. C'est du verbatim, ça, c'est des choses dites.
Ah, oui.
Et donc, c'est très drôle. C'est un personnage qui était très drôle et qui était très loin de moi. Dans la nature, dans le physique, dans la façon d'agir, de penser.
Dans les opinions politiques.
Et donc, rien n'est plus enivrant pour un acteur de pouvoir se sentir en osmose avec un personnage qui est au rebours de soi-même, qui est à des kilomètres. Ce fait que quand je l'ai rencontré physiquement, je me suis dit, mais c'est fou comment j'ai pu me faire confiance alors qu'on est si loin. Si loin, je pense que j'aurais pas pu, j'aurais été bloqué. Ça dit, là, il y a un acteur qui vient de tourner un film, qui vient de le jouer, avec un autre acteur qui joue François Hollande,
ouais.
Et ils vont casser la baraque.
Ouais. Il parle du jardin,
Jean du jardin, ouais. Il est un merveilleux parce que j'ai joué dans ce film une scène où je fais son psychanalyste et il m'a scotché. Il est extraordinaire. Et mon ami Grégory Gadebois qui joue François Hollande, qui est un sublime acteur aussi. Donc voilà, ça va être quelque chose. Ça s'appelle Président.
Ouais. Vous écrivez aussi vos rôles et les scénarios. Vous avez co-signé ces deux Alfred, le 10e film avec lui, avec Bruno Podalydès. J'ai pas envie de raconter l'histoire parce que je pense que vous racontez votre personnage dès le début avec votre banquier Michel Duhiermos.
Ah, c'est drôle. Ma femme, justement, est sous-marinière.
Mon père y était commandant.
Ah.
Il y a des femmes maintenant dans les sous-marins ?
Depuis peu, oui. Ma femme supervise à bord les sonars.
C'est bien. Je vois que son salaire n'est plus versé sur le compte commun.
Oui. Nous sommes ponctuellement séparés.
Vous voulez dire le temps de la mission ?
Disons que c'est notre couple qui a un peu plongé. Mais j'espère que quand elle refera surface, son regard sur moi aura changé, car d'ici là, j'aurai fait les efforts conséquents.
En attendant, vous êtes, vous, toujours à découvert. On a un petit problème, là. Techniquement, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Techniquement, je ne sais pas, je ne vais pas louvoyer.
On voit des gens, on voit des rendez-vous.
Je reste socialement très accessible.
Vous voulez dire des rendez-vous professionnels ? On cherche, on postule ?
Ben je postule beaucoup, je postule tous azimuts.
Et
on est déçus. On est très déçus. Je n'arrive pas à trouver de la véritable accroche, faute de grandes perspectives dans le secteur.
Et on est ?
Je suis chômeur. Je ne me sens pas humilié.
Votre secteur, c'est quoi déjà ?
Dans la guerre, j'étais sous-directeur d'une petite entreprise... enluminure et une imprimerie.
Effectivement, on est cuit.
Ouais. Pas vous, hein. But. Demain, j'ai rendez-vous avec une entreprise et ce rendez-vous est très prometteur.
Il est merveilleux ce dialogue des deux Alfred de Bruno Podalydès. Vous l'avez écrit aussi ce dialogue-là
ou voilà, c'est l'improvisation. Non, il n'y a pas du tout d'impro. Non. C'est tout à fait écrit. On fait des impros
en écriture.
Quand on au stade de l'écriture.
Ouais.
Et là, je crois que c'est un dialogue que lui a entièrement réécrit. C'est vraiment Bruno là.
Ouais.
Là, j'entends Bruno. Vraiment, c'est sa façon d'écrire, son sens du dialogue.
Ce film est merveilleux. C'est-à-dire que c'est un film poétique sur une époque cruelle.
Oui.
Il est sur un monde complètement informatisé dans lequel vous êtes, vous, perdu. Quoi. Il faut signaler la présence de Sandrine Kiberlin, qui est assez exceptionnelle aussi.
Tout à fait.
Denis Podalydès, vous êtes acteur de théâtre, vous êtes acteur de cinéma, et vous êtes acteur avec Bruno Podalydès. C'est presque un autre métier avec lui. Vous êtes autre chose avec lui.
Écoutez, oui, sûrement. Ça me dépasse, c'est quelque chose qui touche l'inconscient. Avec lui, je suis dans cette forme d'osmose, de gémellité. On a grandi tellement ensemble, on s'est tellement formés l'un l'autre. Il est mon aîné de 2 ans et j'ai collé à lui. Et donc, sous son regard, je sais que je suis un peu un autre. Je l'ai vécu hier soir en donnant une répétition de la pièce. Je me suis regardé à travers lui et je lui ai prêté un regard d'ailleurs dur, ce qu'il n'avait pas du tout d'ailleurs, parce qu'après il m'a félicité très chaudement, il avait adoré le spectacle. Mais voilà, quand il est là, je suis un autre. Et donc j'imagine que quand je joue avec lui, je suis plus peut-être son propre frère que je ne suis moi, mais pour un acteur, c'est très bien.
C'est une répétition privée, on dit. Hein,
ouais, oui, c'est une répétition.
Ce qui sera pas privé, ça va être la sortie des deux Alfred
Mais on parle depuis longtemps. Hein.
Vous restez avec nous, bien sûr. On se retrouve après The Liminianas Calentita.
C'était l'été sur cette plage de la Costa Blanca. Le soleil dans tes cheveux et la radio qui jouait.
Agua fría. Huevos fritos, colacao, mantecao, agua fría, huevos fritos, colacao, mantecao, calamares,
nu sur la plage,
chipirones,
je joue du sitar,
bocadillos,
je sais,
mejillones,
tu es accablé,
calamares, chipirones, bocadillos.
Tu répètes sans cesse
mejillones.
Les mêmes mots.
Beba Fanta. Chupa chups. Beba Fanta. Chupa chups.
Ma musculature moyenne, acquise en Mayenne, te fait de l'effet. Tu es accablé. Sur la plage bondée, il est 10h15. Je marche dans la lumière. Tu m'aimes déjà.
Beba Fanta.
Mais tu ne le sais pas.
Chupa chups. Pan casero. Motifarra. Higo chumbo.
Tu répètes sans cesse les mêmes mots.
Sobrasada. Pan casero. Motifarra.
Je n'utilise mon peigne
sobrasada
qu'une seule fois.
Calentita. Pollo frito.
Puis je le lance sur toi.
Vino tinto. Jamoncito. Calentita.
Tu ne le ramasses pas.
Pollo frito.
Tu dis.
Vino tinto. Jamoncito.
Tu es accablé.
Beba Fanta. Chupa chups. Beba Fanta. Chupa chups.
On continue à parler avec Denis Podalydès. Alors, on va parler de... Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de salle ouverte, mais on peut lire, on peut regarder des DVD, et notamment L'Inhumaine de Marcel L'Herbier.
Mais oui, L'Inhumaine de Marcel L'Herbier, en coffret, Blu-ray et DVD chez Lobster, avec en plus un livre inédit qui sert de grand bonus, si je puis dire, au DVD. Le film date de 1924, le scénario est de Pierre Macorlan, la musique de Darius Milhaud, et les décors sont faits par Fernand Léger, Robert Mallet-Stevens et deux futurs cinéastes, Claude Autant-Lara et Alberto Cavalcanti. Avec un tel générique, si c'est pas bien à regarder, on se demande. Ben si, c'est évidemment magnifique à regarder, peut-être plus à regarder d'ailleurs qu'à écouter, parce que la direction d'acteur est un peu flottante, les acteurs eux-mêmes sont pas extraordinaires, mais qu'est-ce qu'on s'en prend plein les mirettes avec cette espèce d'ode incroyable à l'art déco, et avec une cinématographie aussi qui est d'une modernité sidérante. Je rappelle que c'est fait donc en 1924, le cinéma n'est pas si vieux que ça, et vraiment, L'Herbier explore plein de champs, plein de champs visuels, plein de champs d'angles, de caméras, de façons de raconter une histoire, avec des ellipses, avec des accélérations de mouvement et du temps. C'est extraordinaire. Si vous n'avez jamais vu L'Inhumaine, et si vous aimez le cinéma, il faut vraiment aller à cette source, parce que c'est voilà une façon de se ressourcer dans ce qu'on aime dans le cinéma, c'est-à-dire dans cette puissance évocatrice des images. Je le rappelle, c'est chez Lobster et le film s'appelle L'Inhumaine de Marcel L'Herbier.
Autre DVD, cette fois distribué par Tamasa notamment, c'est Gwendalina d'Alberto Latuada.
Oui, alors j'avoue que je ne connaissais pas ce film de Latuada. Il sort en Blu-ray DVD, vous le disiez, chez Tamasa, avec en quelque sorte l'autre film qu'on connaît plus, qui sont Les Adolescentes de La Tuada, et c'est une sorte de diptyque fait par ce grand réalisateur italien, à un moment où il évolue dans sa cinématographie et où il s'intéresse à ce qui deviendra une figure très récurrente chez lui, la jeune fille, alors parfois avec un érotisme un peu facile. Là, c'est pas du tout le cas, parce que c'est une histoire d'amour, de premier amour romantique, qui est incarnée, la jeune fille, par Jacqueline Sassard. Et Jacqueline Sassard, on la retrouvera 10 ans plus tard dans Les Biches de Claude Chabrol. Ça, c'est très étonnant. Et il y a vraiment là, chez La Tuada, une attention portée à cette jeune fille. C'est un portrait d'une fille très libre, très, très belle, très vivante. Il y a une scène de danse sidérante, tout à fait incroyable. Et en même temps, un désenchantement, parce que quand elle est en train, elle, de rencontrer son premier amour, ses parents, eux, se séparent, et ses parents incarnent effectivement une sorte de désenchantement mélancolique absolu. Leur séparation ne donne même pas lieu à des grands éclats. Tout se délite autour de cette jeune fille. C'est véritablement une très grande surprise que ce Gwendolina, qu'on peut voir évidemment en reflet avec l'autre film donc qui paraît aussi en DVD, qui s'appelle Les Adolescentes d'Alberto La Tuada.
Tamasa avec Julio Canal, et dit aussi La Hammer, les films de La Hammer.
Mais oui, alors ça s'appelle, c'est un volume 2, ça s'appelle du Sexe et du Sang, 1970-1976. Vais-je résister au plaisir de vous donner le nom des 7 films, parce que c'est un coffret? Non, évidemment. Les Cicatrices de Dracula, c'est le dernier Dracula avec Christopher Lee et La Hammer. Les Démons de l'Esprit, Une Fille pour le Diable, premier film de Nastassia Kinski avec Richard Widmark, s'il vous plaît. Les Horreurs de Frankenstein, avec dans le rôle du monstre le futur Dark Vador. Ça c'est celui que je préfère, Dr. Jekyll et Sister Hyde. Oui, le Jekyll se transforme en femme. C'est une modernité absolue. La Momie Sanglante également, et puis Sueur Froide dans la Nuit avec Peter Cushing. Il y a un joli petit livre qui illustre l'ensemble de ce coffret. Si on veut se faire peur, c'est vraiment là où il faut aller, le coffret Hammer chez Studio Canal et Tamasa.
Et alors, il y a 2 livres. On va commencer par celui-là sur un acteur magnifique qui s'appelle Bill Murray, édité chez Capricci.
Oui, Bill Murray, Commencez sans moi. C'est le titre du bouquin de Yal Sada. Parce que tout simplement, pourquoi? Parce que Bill Murray s'est fait une spécialité, c'est d'arriver sur les tournages le plus tard possible, et singulièrement quand le film a déjà commencé, quand le tournage a déjà commencé, en disant vous pouvez commencer sans moi, de toute façon moi je m'adapterai. Il y a chez lui une incapacité, mais volontaire, à justement ne pas être dans les clous. Il aimerait que les tournages puissent commencer sans lui, il aimerait tout improviser. D'ailleurs il détruit les scénarios, il invente des dialogues, c'est vraiment la bête noire de certains réalisateurs. Il piétine le petit champ qu'on lui laisse avec une incroyable liberté. Il fait des voyages en Inde, à Paris, tout d'un coup il s'en va, il s'exile, il est dans une sorte d'existentialisme militant. Et ce petit livre, très court, cette petite bio, très informée, mais où on multiplie les scènes, où on voit que effectivement Bill Murray, c'est à la scène comme sur un plateau, c'est un acteur sidérant, incroyable. On se demande ce qu'il nous réservera dans le futur.
Enfin, un cadeau. Alors, c'est un livre absolument génial. C'est Richard Burton. Son journal intime, enfin traduit en français.
C'est très beau. Ah, c'est gentil.
Le voici, le voilà.
Burton, 12e.
Waouh, beau cadeau, là.
12e
des
13 enfants.
J'ai lu un article dessus.
D'un mineur gallois. Il aime l'alcool, ne s'aime pas, adore Elizabeth Taylor, vénère Shakespeare, dévore de la littérature américaine, anglaise, russe, française, Proust, Baudelaire, Rimbaud, dont il trouve la traduction anglaise abominable, a rencontré les plus grands, et notamment incroyable rencontre avec le maréchal Tito, Laurent, et d'autres personnages.
Oui, moi, il y a un mélange de trivial et de poétique extraordinaire. Ouais. Le jeudi 16 juillet 1970, il écrit « Ça fait 2 jours qu'Elisabeth est partie. Elle ne revient pas d'ici avant samedi et elle me manque tout le temps. Ouais. J'adore me lever le matin et taper à la machine ou lire et tout à coup réaliser qu'elle s'est levée aussi et qu'elle est en train de boire une vodka orange, un Bloody Mary ou un Salty Dog, et en train d'embêter le monde entier. Voilà, ça c'est sa description d'Elizabeth Taylor.
Plus tard, il dit « Curieuse histoire d'amour, souffrance tolérable, amour insoutenable, douleur adorable. » C'est très troublant d'entendre les pensées intimes d'un immense acteur comme lui, voyez. entre ces rencontres, comme le disait Laurent, c'est trivial et fascinant, dans ces lieux incroyablement riches, mais lui qui se souvient de son enfance pauvre, qui dévore de la littérature, ce bouquin est incroyable.
16 novembre 1971, ouais. Ma grande joie en ce moment, c'est de lire Baudelaire.
Ouais.
Ah oui, mais il a des enregistrements de poètes anglais que moi j'ai écouté et réécouté, ah ouais. Notamment du grand poète Coleridge, qui sont The Rime of the Ancient Mariner par Richard Burton. C'est extraordinaire, ça a été un Hamlet de légende. Ouais. Et il y a une version télé qui est très belle, je crois, avec John Gielgud qui fait le fantôme. Et en fait, il est en simple pull noir. Elle est très moderne, cette mise en scène, très 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 sobre. Ça a été un grand, grandiose Hamlet, dévoré de mélancolie, magnifique.
Richard Burton, c'est ça, voilà.
Ouais.
Et pour finir, un autre cadeau, merci. Un autre cadeau de Denis Podalydès, mais un cadeau immatériel.
Ah.
C'est un texte d'Arnaud Desplechin sur vous. Par quelle facette aborder Denis Podalydès ? C'est un vertige. D'abord l'acteur de théâtre, et puis les films sans nombre, la collaboration avec son frère Bruno, avec qui il a su inventer un monde de cinéma si singulier et si attachant. Oui, les films des frères Podalydès sont cultes, tout simplement. Et puis Denis, metteur en scène de théâtre et d'opéra. Mais il y a avant toute chose, Denis le lecteur, l'homme qui sait voler une page, ou la moitié d'une page en coulisses, assis sur une chaise ou entre deux prises sur un plateau. Très logiquement, Denis est devenu un écrivain merveilleux. Cette précision de l'écrivain, c'est la même que la précision du jeu chez Podalydès. Nous voyons incarner l'intelligence du texte. Sans liberté, cette intelligence ne vaudrait rien. Mais Denis est un homme libre. Vos journées comme les miennes font 24 heures. Une journée de Denis Podalydès, elle, en dure 48. C'est un net avantage. Est-ce que Denis a un appétit d'ogre ? Non. Je crois que c'est juste le goût de la fantaisie. Voilà tout. Denis ose tout, Denis invente sans cesse. Je viens de tourner un nouveau film dont Denis est le héros, aux côtés de Léa Seydoux, et je ne lui demandais pas moins que de jouer le rôle de Philippe Roth lui-même. Denis a accepté, je crois, avec grand trac. Et c'était une pression énorme pour moi que de jouer avec un acteur qui a déjà tant offert, dans tant de films, sur tant de scènes. Le résultat, vous le découvrirez quand le film sera fini, mais j'ai cet orgueil d'avoir su filmer peut-être un visage de cinéma que Denis n'avait jamais encore offert. Il a donné la fureur et la retenue dont je rêvais. Son audace fut stupéfiante. Je dois rester modeste. Ma fierté est de l'avoir filmé. Arnaud Desplechin.
Ben c'est un très beau cadeau. Oui. Non, j'étais bouleversé par ce tournage, par cette relation avec Arnaud. Effectivement, et quand j'ai vu le film, j'ai l'impression d'être filmé. On parlait justement avec mon frère, je suis cet autre qui est le frère de Bruno,
ouais.
Et avec Arnaud, un autre que je ne connaissais pas, et qui ça m'a ouvert un monde. Et avec les actrices, notamment de ce film, Léa Seydoux, Anne Grimbert, Rebecca Marder, Emmanuel De Vos, ça a été un moment absolument magnifique.
Merci beaucoup.
Il manque ça rouvre.
Merci.
Oui, oui. Oui. Pour voir ces films.
Merci d'avoir été là avec nous. On vous laisse raconter le générique.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Georges Delerue a écrit les musiques du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Christophe Magère s'est occupé de la préparation. C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Denis Podalydès, j'y étais.